Rencontre spéciale Ramadan. Un échange autour de l'islam avec Loïc Barrière.
Rencontre avec l'essayiste Asma Lamrabet à l'occasion du Ramadan, émission en quatre parties, première partie. Pour commencer, Asma Lamrabet, vous êtes médecin né à Rabat où vous exercez à l'hôpital Avicenne et depuis déjà de nombreuses années, vous travaillez sur la relecture des textes religieux à partir d'une perspective féministe, éthique et réformiste. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances qui vous ont amené à faire ce travail ?
Bah, écoutez, d'abord, ça fait plus de 20 ans, donc c'est à préciser, ça passe quand même un bon bout de temps. Et les circonstances, en fait, la première, c'est parce que je suis une femme. Et donc, étant dans ce statut-là de femme dans des sociétés arabo-musulmanes où l'islam est un référentiel incontournable, ça veut dire qu'on sent des discriminations qui sont au nom du religion et qui m'ont toujours perturbée dans mon adolescence et ma vie de jeune fille et de femme. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours troublée, j'ai toujours été croyante, mais j'avais un problème avec ma tradition religieuse, c'est-à-dire toutes les interprétations, comment on vivait ça au sein de la société. Et donc, ayant eu une éducation pas du tout religieuse dans le sens traditionnel, c'est-à-dire que j'ai pas reçu de cursus traditionnel dans les sciences islamiques, ni à la maison, ni à l'école, j'étais dans une école, disons, occidentalisée, il y avait une certaine inculture religieuse donc qui ne me permettait pas de me défendre, d'avoir des arguments, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours... profondément perturbée. Je voyais donc des contradictions et j'avais besoin en plus d'une spiritualité assez apaisée que je ne retrouvais pas dans la réalité de tous les jours. Donc voilà. Et donc, entreprenant des études de médecine qui sont très très prenantes, etc., qui ne nous laissent pas le temps d'étudier autre chose, dès que j'avais terminé ma spécialité à l'âge de 27 ans, 28 ans, j'ai décidé donc de commencer à étudier le Coran, les interprétations, etc. Mais c'était au début un besoin personnel, strictement personnel. En tant qu'autodidacte, je connaissais l'arabe, donc je suis partie dans les textes sources, donc aussi bien le Coran que les interprétations, et j'ai commencé à faire mes petites recherches. C'est là que j'ai trouvé ces contradictions, donc entre ce que disait le texte, entre ce qu'il permettait de dire, et parfois même dans ses silences, et le décalage profond que je trouvais dans des interprétations très misogynes, très patriarcales, enfin très loin de la subtilité du texte. Et voilà, c'est comme ça que mes premiers écrits ont commencé. J'ai mis ça du papier, donc je commençais à écrire et j'ai vu qu'il y avait un répondant, que ça répondait à une demande et que ça interpellait beaucoup de gens. Et donc dès mes premiers livres, j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de personnes, de femmes, d'hommes aussi, de jeunes musulmans, mais même de non-musulmans qui étaient assez intrigués et qui se retrouvaient dans ces écrits, dans ces livres de recherche. Voilà, c'est un petit peu le tout début.
Comment situez-vous votre approche sur l'islam, Asma Lamrabet ? Vous n'êtes ni moderniste ni conservatrice ?
Bah écoutez, c'est des concepts que je trouve un petit peu piège parce que qu'est-ce que être moderniste aujourd'hui, qu'est-ce qu'être conservateur ou conservatrice. Moi, je pense pas qu'on puisse enfermer les gens dans des grilles pareilles parce que je suis une même personne peut être complètement, très convaincue par la philosophie de la modernité, etc., mais être en même temps critique de cette modernité et avoir un certain conservatisme sur certaines questions politiques ou religieuses ou autres. Donc voilà. Donc oui, effectivement, je ne m'inscris pas dans des grilles de lecture telles que celles. Voilà, je suis une moderniste, j'estime que toute référence au religieux doit être bannie, et je ne suis pas aussi, je ne m'inscris pas dans cette vision très traditionnaliste qui estime que le religieux est un tout, qu'il doit absolument régner, peut être le cadre normatif de ma vie. Et donc, qu'en dehors de lui, il n'y a rien, absolument rien, avec une vision très, voilà, très fermée des choses. Donc, je me situe pas là. Et c'est pour ça que, bon, en tout cas, sur cette question des femmes, j'ai toujours proposé une troisième voie, c'est-à-dire qui est alliée entre tous les côtés positifs de la modernité, mais de la tradition aussi, parce que la tradition n'est pas un tout négatif. On peut, dans la tradition, avoir des aspects très positifs et complètement compatibles avec notre façon de vivre aujourd'hui.
Alors, vos écrits s'adressent à la fois aux musulmans et aux non-musulmans. Vous avez le sentiment que le monde occidental, notamment, a une image faussée de la place des femmes dans l'islam?
Absolument, mais le monde musulman aussi. C'est le monde musulman qui... Sincèrement, j'écris pas pour un public non musulman ou musulman, j'écris pour un public intéressé qui est interpellé par ces questions-là. Parce qu'en fait, c'est dans les deux visions, dans cette vision un petit peu occidentale et très... Elle est islamophobe, un petit peu eurocentrée, etc. Mais aussi la vision musulmane très fermée sur elle-même, qui estime que qui a une vision aussi très monomorphe donc et monolithique, si on veut, de l'Occident non musulman. Donc voilà, j'écris pour les deux, pour sortir justement de ces visions fermées sur l'autre, parce que voilà, notre monde est pluriel et j'estime que aussi bien le monde musulman que le monde occidental non musulman, ce sont des mondes qui sont caractérisés par la pluralité, la diversité, et aujourd'hui plus qu'avant, et surtout par la complexité. Donc voilà, donc j'écris pour les deux, et j'estime que cette vision, justement, elle est pas faussée uniquement au niveau du monde musulman, c'est vrai, du monde occidental, c'est vrai qu'il y a des stéréotypes assez très, très très ancrés dans un imaginaire occidental non musulman, mais je vis dans un contexte arabo-musulman, je peux vous dire que les stéréotypes sont là aussi au sein des sociétés arabo-musulmanes, où on a l'impression que voilà, que les femmes musulmanes doivent rentrer dans un cadre assez particulier. Ce sont des stéréotypes, à mon avis. Donc, dans les deux cas, on a vraiment une vision très stéréotypée des femmes musulmanes.
Est-ce que vous considérez qu'avec l'avènement de l'islam au temps du prophète, les femmes ont peut-être acquis plus de droits dans la péninsule arabique que les femmes en Occident au Moyen-Âge ?
Oui, ça c'est franchement c'est évident quand on fait une lecture anthropologique et historique donc de la révélation et du moment historique donc des autres civilisations. C'est vrai que le Coran par rapport, et ça beaucoup même d'orientalistes qu'on inculque d'une vision un petit peu très orientaliste, un petit peu stéréotypés, le reconnaissent. Il y a eu une ouverture, il y a eu, des latitudes offertes par le texte coranique et par la révélation qui n'existaient pas dans les autres civilisations à l'époque bien sûr au sein de la péninsule arabique aussi. Donc, c'est vrai que il y a eu quelque chose de nouveau, même dans la tradition du prophète, comment il s'est comporté donc avec avec les femmes, sa pédagogie, son amour envers les femmes, les enfants, les opprimés donc de la période donc de la révélation. J'estime qu'il y a eu une ouverture très importante, mais que malheureusement. Les musulmans après la révélation et au cours de l'histoire n'ont pas du tout pris en considération et qu'ils ont même marginalisé cet apport positif donc de la révélation coranique.
Dans vos ouvrages, Asma Lamrabet, vous interrogez la notion de féminisme. Le féminisme n'est absolument pas incompatible avec la religion et la foi musulmane.
Ben oui, si on prend là aussi le concept du féminisme dans une approche, dans sa dimension universaliste, c'est-à-dire dans ses principes, pas dans son modèle. Parce que je ne crois pas un féminisme universel, mais je crois en un modèle universel du féminisme, je crois en des principes. universelle du féminisme. Le féminisme a été effectivement théorisé, conceptualisé en Occident, aux États-Unis et en Europe, spécialement en France, fin 19e, début 20e siècle, mais ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas de revendication féministe, mais qu'on n'a pas théorisé, qu'on n'a pas nommé en tant que tel. Donc c'est pour ça que je m'inscris donc dans une certaine critique d'un féminisme universaliste qui prétend parler au nom de toutes les femmes du monde, mais je m'inscris dans les principes universels du féminisme qui sont des revendications tout à fait légitimes de toutes les femmes du monde, qu'elles soient arabo-musulmanes, européennes, asiatiques ou latino-américaines ou subsahariennes, africaines, des femmes qui, dans toute l'histoire de la civilisation humaine, ont à un certain moment donné revendiqué des droits, elles ont été dans un état de subversion contre la discrimination, elles ont revendiqué la dignité, l'égalité en droit, la non-discrimination, tout ça ce sont des principes donc universels dans lesquels donc je m'inscris complètement, mais les modèles vont être très différents selon les contextes. Donc, quand on voit juste en Europe ou en France particulièrement, pour être plus proche donc du modèle français, il n'y a pas un seul féminisme, il n'y a pas un seul modèle de féminisme. On a différents types de modèles de féminisme, libéral, politique, voilà, donc radical, communiste, etc. Et puis, en Amérique du Sud, on a le féminisme théologie de libération. Aux États-Unis, on a le féminisme différentialiste ou le féminisme afro-américain. Et donc, dans les pays arabo-musulmans aussi, on a des féminismes, donc, qu'ils soient islamiques, musulmans, musulmans de culture ou musulmans par référence, etc. Donc voilà, donc les modèles sont différents, ce sont des féminismes pluriels.
Votre travail consiste à réinterroger les sources de l'islam ?
Oui, il s'agit de re-questionner justement le cadre normatif de l'interprétation patriarcale. Jusqu'à présent, 14 siècles d'exégèse sans une exégèse féminine. C'est quand même quelque chose qu'on doit re-questionner. Et cette exégèse entièrement masculine s'est faite aux dépens, s'est faite contre l'intérêt des femmes, puisque ce sont des hommes qui ont monopolisé cette lecture-là. Bien sûr, je ne vais pas généraliser. Il y a eu quelques exégètes, surtout contemporains, qui ont un petit peu essayé de changer les choses, d'avoir une vision beaucoup plus je vais pas dire égalitarisme, mais un peu plus juste envers les femmes, mais ça reste une minorité. Donc voilà, je suis pas la seule. Nous sommes beaucoup de femmes aujourd'hui, depuis les années 90, qui remettent en question justement cette interprétation patriarcale très misogyne et ont complètement en décalage par rapport à ce que permet le texte. Et donc, c'est essentiellement la déconstruction de cette interprétation, de cette exégèse islamique faite essentiellement par des hommes qu'on remet en question et qui nous a permis de sortir de ces schémas-là et de remettre en question des concepts qui ont été complètement jusque-là perdurent, patriarcaux, discriminatoires envers les femmes et qu'on a considérés comme étant des textes sacrés, des concepts sacrés relevant du texte lui-même.
Merci Asma Lamrabet. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le prophète et les femmes de sa vie, aux éditions El Bourak, une émission en 4 parties à retrouver sur radioorient.com.
Rencontre spéciale Ramadan. Un échange autour de l'islam avec Loïc Barrière.